Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now.
Bonjour, bienvenue sur French Voices Podcast. This is episode 38. If you know me a little bit now, and especially if you listen to my other podcast, French Your Way podcast, you know that I love words, languages, and also the story behind the origin of words. In French Your Way podcast, I often give, like, if I know it, if I can find it, I share with you the etymology of a word, or how it evolved, or what other words are derived from it, because I think it helps making things more memorable, and it's also so fascinating. And so one day I was listening to a podcast myself, because I love doing that, like when I'm driving or washing the dishes, etc. And so I was listening to one radio program that's from France Inter. It's called La Tête au Carré, and this is always very, very interesting with varied topics. And on that day I was listening, and I was particularly struck and enthusiastic about what I was hearing. It was linguists talking about how some words had, like, crossed the borders, had evolved, and one of the interviewees, one of the guests, was Marie Treps, and I thought it was particularly relevant for you, my audience, to try to get her on board for this podcast, because she wrote, so she's particularly interested about how French words using overseas give a certain image of French people and of France. And on the other way, she's also written books about the foreign words that have integrated into the French language. And so I was a little bit impressed and shy, but I did find her contact details, and she replied straight away. Like, within 2 hours, she had accepted to be part of this podcast, and was very enthusiastic about the work that I do for you. And so we quickly scheduled a conversation, which we continued off recording. It was really, really interesting. So yeah, Marie Treps is a passionate linguist, and she's also the author of many books about words for adults, and also she adapted some of them for children. And she's particularly interested in some fields that are often neglected by the other researchers, actually, because, so I said she's curious about the origin of words, but also about, like, the origin of some interjections and puns. And she also wrote a book about, index a list of love words that we use, etc. So this whole conversation comes in two parts. So the second part will be next episode, episode 39. And today, in the first of this two-part interview, we'll get an overview of Marie's career work. So she's worked on many projects, including she was involved in the writing of Le Trésor de la Langue Française, which is a very comprehensive, like, 16-volume dictionary of French words, so a massive piece of work. I'm putting the show links in the link to that dictionary in the show notes. You can use this dictionary. There's a computer version, like a software version, but also an online version. So it's pretty comprehensive. And so Marie will also present the inspiration behind several of her books, and she will share with us the childhood memories that led her to love languages and words, and to become the linguist that she is today. we'll also illustrate together. We'll like just bounce on like, because I also had some example myself of words. So we'll take a few examples of how some words evolved and the stories and histories behind these words. So very interesting episode. If you like languages and if you are listening to French Voices, I bet you do. So, five vocab words to start with and help you with your listening comprehension. Ludique. Ludique comes from the Latin ludus, I think, which means game and entertainment. So ludique is the adjective that means it's fun, it's very playful. Une activité ludique, par exemple. Un emprunt. Emprunter is to borrow. Donc, un emprunt can be, so if we're talking about the bank, like a loan, where you borrow some money. In linguistic field, it means a borrowing or loan word. So, a word that comes from a different origin than the language that we are talking. Un mot valise, that's very interesting. So the suitcase word is what you call the portmanteau word. And interestingly, that's French, portmanteau. We can also say un mot sandwich in French. And it's a blend of two words to form a new concept. So just an example in English, like brunch. Brunch is actually used in French too. But some people do not know that it comes from the English, which is a fusion of breakfast and lunch, a brunch. So that's un mot-valise. Un mouchoir. Mouchoir, alors se moucher is to blow one's nose. Un mouchoir is a handkerchief. And when we want to say like a tissue, we just say un mouchoir en papier, so a handkerchief made of paper. And I think I had given that word to you in the past, l'orthographe. Orthographe, so graphique is referring to the writing. And ortho, like orthopedics or ortho, orthodonty is like authentic, like putting your teeth straight. Ortho means straight, correct. So the correct way of writing. So that means the spelling, the correct spelling rules, l'orthographe. So listen to the first part of Marie's interview now. Marie Treps, bonjour et bienvenue sur French Voices.
Bonjour.
Alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un, comment est-ce que vous répondez à la question « Que faites-vous dans la vie ?» Comment est-ce que vous décrivez et expliquez votre travail ?
Ah, ben je suis linguiste et sémiologue de profession. J'ai été chercheur au CNRS pendant longtemps, je suis en retraite maintenant depuis peu. Mais j'ai travaillé, d'abord j'ai été lexicographe, j'ai travaillé pour un grand dictionnaire, grand et gros, enfin en 10 volumes, sur la langue française.
En 10 volumes,
oui, ah ouais. Ça s'appelle Le Trésor de la langue française, un dictionnaire historique, c'est-à-dire qu'on parcourt le sens des mots à travers les âges, et qui existe aussi en version informatisée. Ça peut intéresser tous les gens qui s'intéressent à la langue française, justement. Mm-hmm. Et ensuite, à la fin de ce dictionnaire, je suis allée travailler avec des anthropologues sur les tziganes, ce qui était tout à fait différent. Je me suis intéressée à leur nom, au nom des tziganes. Mais à partir de là, alors j'avais déjà écrit quelques livres sur la langue française, surtout sur des territoires un peu négligés du français. Par exemple, mon premier livre s'appelait « Allons-y, allons-o » ou « Le petit théâtre de l'interjection ». Ça rassemblait des expressions interjectives.
Mm-hmm. Comme « En voiture Simone » ou Simone, des expressions comme ça.
Cool, Marcel, des choses comme ça. Et c'est des territoires qui étaient un peu négligés des lexicographes. Et ça m'a amusée de... Quelquefois, je dis que j'ai commencé par faire les poubelles de la langue, ce que personne regardait, ne regardait. Et moi, je me suis dit que ces choses-là, qui ne sont pas répertoriées par les dictionnaires ou qui ne l'étaient pas à l'époque, qui le sont très peu, disent beaucoup de choses sur les relations qu'ont les relations ludiques qu'ont les francophones entre eux. Il y en a dans d'autres langues, l'anglais en a beaucoup aussi. Et c'est pour ça que ces mots m'intéressaient. Ce qui est derrière, c'est la sémiologue qui est derrière la linguiste toujours, qui se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire d'employer ces mots-là? Qu'est-ce qui se passe
Mais
entre les gens? Donc j'ai commencé avec ça. Et oui, pardon.
oui, non, juste pour préciser, parce que donc on comprend bien que vous êtes dans le dans le domaine de l'étude de la langue. Est-ce que vous pourriez juste rapidement définir ces termes exactement? Qu'est-ce que c'est, linguiste, sémiologue, lexicographe?
Lexicographe, c'est le plus simple à définir, c'est quelqu'un qui rédige des dictionnaires. Hein? Il y a
Des
des
définitions.
définitions. Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans l'étymologie, qui est une partie des articles de dictionnaire, c'est-à-dire la date d'apparition d'un mot et son évolution à travers le temps. Moi, je m'occupais de la partie ce qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire la définition des mots, le passage d'un sens à l'autre, par métonymie, par exemple, par une image. Il y a beaucoup de mots il y a des mots qui ont plusieurs sens, des sens différents, des sens figurés. Un lexicographe explique tout ça, du moins dans les grands dictionnaires. C'est développé. Donc je faisais ça. Et puis, sémiologue, alors j'ai fait des études aussi de sémiologie. La sémiologie, c'est quoi? C'est l'étude des signes. Et
Des signes.
les signes, et dans la sphère humaine, tout fait signe. Les couleurs font signe, elles s'organisent en un système qui est différent selon les cultures. Par exemple, je ne sais pas, la couleur blanche et celle du deuil dans certaines cultures, asiatiques notamment, dans les cultures européennes en France, c'est le noir. Ça reste de la sémiologie, tout ce qui fait signe dans l'humain. Et évidemment, les couleurs, les espaces aussi, hein, comment un espace est organisé, et le langage, bien sûr, aussi a une dimension sémiologique. C'est-à-dire, au-delà du sens des mots, il y a la manière dont on entre en communication, la manière dont on peut faire partager à travers certains mots des émotions, des choses qui touchent à l'intime, pas. Tout ça, c'est une partie sémiologique du langage. Pour moi, le langage, c'est pas simplement un système de signes organisé. Et voilà. Et
Donc dans la sémiologie, on aura par exemple l'intonation,
ça,
la proximité, la distance interpersonnelle, etc.
ben, par exemple, ça peut entrer.
Ouais.
Mais il y a aussi des spécialistes, des phonologues qui, eux, vont étudier vraiment la prononciation, etc. Mais il y a un point de vue plus large et plus. Il y a toujours deux distances. Une distance très. On est très terre à terre vis-à-vis des mots. Le sens, c'est déjà une distance un peu plus subtile. Et puis après, il y a tout ce qui fait partie de la communication. Par les mots, que ce soit une communication écrite ou orale. Et alors, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je vous ai dit que j'ai fini par travailler au CNRS avec des anthropologues, et que mes recherches, mes publications s'en sont trouvées, ça s'est ressenti, si vous voulez, après les Allons-y, allons-o, j'ai travaillé sur justement les mots de l'intimité. J'ai fait un dictionnaire qui s'appelait Les mots caresses, qui a été réédité plus tard, et celui-là existe encore, le second, le dico des mots caresses. Qu'est-ce que c'est les mots caresses? C'est des mots qu'on emploie dans l'intimité. Si vous voulez, c'est le contraire de l'injure. C'est des mots pour se rapprocher. Et ça m'a beaucoup intéressé de regarder de près ces mots-là, et de les regarder aussi dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui en français. Et j'ai appelé le dico des mots caresses, ou les mots caresses après, parce que ces mots-là sont très ambigus, avec une joue et une main, on peut caresser. C'est pour ça qu'on appelait ces mots-là les mots caresses. Mais aussi, on peut gifler. Et ils sont quelquefois très... c'est une sorte de double sulfureux de l'injure. Et quand on peut, quand on est amoureux de quelqu'un, on peut employer, ou vis-à-vis d'un enfant, les plus jolis mots, ma poule,
ma puce, souvent des noms d'animaux d'ailleurs, pour une certaine raison que vous connaissez peut-être d'ailleurs.
Bah, disons que dans le livre, les mots caresses, le petit vocabulaire affectueux qui n'est pas si petit que ça, les animaux se taillent la part du lion. Je pense que
ouais.
C'est parce que c'est une, d'abord, c'est toujours c'est des mots qui ont un terroir dans deux sens, c'est-à-dire si on est né en Australie ou en France, on va pas forcer, et qu'on n'a pas la même langue, on n'emploiera pas les mêmes mots caresses, déjà. Et puis, même en France, si on est en Provence ou si on est dans le nord de la France, on n'aura pas les mêmes, on va employer des mots du dialecte local, par exemple, ou du moins on peut parler à l'imparfait. Dans la communication, alors avec les enfants, on emploie plutôt des mots excessivement caressants, mais on peut aussi bien, j'ai trouvé ça, dire à un enfant, petit cul, arrête de chahuter. Ce qui est déjà un petit peu plus, qui pourrait être, on arrive à la frontière de l'injure. Et quand c'est entre adultes, on a Lumière de ma vie, on a des choses grandioses, on a des choses plus ou moins érotiques, selon les siècles aussi, et selon les circonstances, et selon les personnalités des gens qui les emploient. Mais on peut aussi jouer avec l'injure. Petit con, je t'aime, ça peut se faire. Ça peut se dire. Ouais. C'est tout ce statut ambigu qui est plutôt de l'ordre de la sémiologie, oui, que de la linguistique qui m'a intéressée. Et ensuite, j'ai eu l'idée d'écrire d'aborder un autre territoire dans lequel, comme pour les mots caresses et Allons-y, allons-o, mon premier livre, un territoire où la créativité linguistique est très importante. Les gens qui parlent, les locuteurs, pour employer un terme linguistique, mais on n'est pas obligé d'employer ces termes-là, moi j'essaye d'éviter, les gens, en parlant leur langue, la langue française en ce qui me concerne, jouent avec la langue. C'est pour ça que la dimension linguistique m'intéresse, joue avec la langue et leur créativité enrichit le français. Je me suis dit, mais il y a un autre domaine où on a beaucoup enrichi la langue française avec des emprunts, et c'est pourquoi j'ai écrit Les mots voyageurs, qui est sous-titré Petite histoire du français venu d'ailleurs, qui est un répertoire de tous les mots, oui, à peu près tous les mots, étrangers, ou du moins une bonne partie, un bon échantillon des mots étrangers qui sont venus nicher, comme les oiseaux, qui sont venus nicher dans la langue française, qui s'y sont installés. On appelle ça des emprunts.
Alors, si je peux me permettre, oui. Pardon, avant de plonger dans ces mots voyageurs, parce que pour un public étranger, ça va donc particulièrement nous intéresser, je me demandais si on fait un tout petit retour en arrière. Oui. D'abord, alors, est-ce que vous... parler d'autres langues couramment, donc, ou est-ce que vous vous spécialisez dans le français? Et puis aussi, comment vous êtes devenue linguiste? Comment est venu cet amour des mots chez vous?
Alors, je suis spécialiste, je parle très bien le français, je crois. Enfin, je connais, disons, bien le français, on va dire ça. Mais j'ai un rapport de linguiste à la langue, pour répondre à la première question, c'est-à-dire à l'écrit surtout. Il y a des gens qui, pour apprendre une langue, par exemple, un linguiste, il va tout de suite s'attacher à la forme. Il y a des gens qui ont l'oreille musicale et pour qui l'oral est beaucoup plus important, qui sont d'ailleurs forcément assez doués pour les langues étrangères d'une manière générale. Moi, d'abord, il est vraiment écrit. Et quand je vois une langue étrangère, d'abord que je peux lire, qu'il ne soit pas du chinois ou de l'arabe, par exemple, où les caractères sont les mêmes que ceux de la langue française, j'essaye toujours de, de lire et de voir même comment la grammaire est construite, de voir si le verbe, ce qui a l'air d'être un verbe est à la fin, etc. Cet abord-là des langues étrangères. Alors, comme j'ai fait du latin et du grec, bon, ben, j'ai une facilité pour les langues latines, l'espagnol, le portugais, l'anglais, j'ai appris l'anglais à l'école, l'allemand, vivant dans l'est de la France, j'ai aussi des notions. Et puis le grec, ben le grec moderne, je peux, sinon comprendre vraiment, le lire assez facilement.
Oui.
Pour le reste, non, je n'ai pas. Mais j'ai cette curiosité et ce goût pour les langues étrangères. Alors d'abord un goût pour les mots, c'est deux choses différentes. J'en ai eu conscience tard, mais quand j'étais adolescente, j'avais une marraine qui m'aimait beaucoup et qui était drôle, mais qui faisait des choses étonnantes que je ne trouvais pas très drôles. Par exemple, à 15 ans, elle m'envoyait un petit paquet pour mon anniversaire, et quand je l'ai ouvert, moi, j'ai trouvé une douzaine de mouchoirs très jolis, tissus, ce qu'on appelle la batiste en français, c'est-à-dire un tissu très, très fin, très blanc. Et puis, il était brodé, c'est-à-dire il était entouré d'un petit point tout autour, point de bourdon, on appelle ça en français, violet. Et mes initiales étaient gravées en violet, ce qui rappelait en fait l'écriture de l'encre violette que j'utilisais quand j'étais enfant, qu'on apprend en France aussi à écrire à la plume, même encore maintenant, aux enfants. Et l'encre violette, voilà, sur le papier blanc. Mais j'ai été très surprise de lire dans un coin, donc mes initiales M.O.T. Mon prénom complet est Marie-Odile. Donc ça faisait Marie-Odile Treps devenait M.O.T. Et là, ça a commencé à surprendre et à m'intéresser. Mm-hmm. Et voilà. Et à me dire que mon nom était réductible à un simple mot, un petit mot de trois lettres, qui est très abstrait, mais qui a la particularité de recouvrir, de remplacer, de rendre présent tous les autres mots, tout le monde bruyant des conversations humaines se retrouve là. Sur mon site, il y a une page sur cette histoire-là. Et j'ai réalisé très tard que, il y a pas si longtemps, quand à l'occasion d'un déménagement, j'ai retrouvé un de ces mouchoirs, que ça m'était arrivé, mais je crois que finalement, c'était quelque chose de subliminal, d'inconscient qui était là. Vraiment.
C'était votre premier jeu de mots, en
ouais,
fait. Qui...
Et les mots, oh, j'en ai fait quand j'étais enfant, comme tous les enfants d'ailleurs. Les enfants qui ont un rapport à la langue qui n'est pas écrit, c'est-à-dire qui n'est pas, qui ne bloque pas l'imagination. Quand on entend, mon grand-père était surnommé... c'est moi qui l'ai surnommé Papillon parce que voilà, il y a un jeu de mots à l'origine que j'ai pas le temps de vous raconter, mais voilà, les enfants sont très créatifs de ce point de vue-là parce qu'ils n'ont pas le blocage de la forme écrite de la langue, de la.
Oui, parce que les jeux de mots sont phonétiques la plupart du temps, ouais.
Ah, voilà, ils peuvent jouer les sonorités, ils s'autorisent à le faire, ils sont pas encore enfermés dans la. Les mots ne sont pas enfermés pour eux dans la cage de l'orthographe et de la grammaire. Et alors la deuxième chose, pourquoi les langues étrangères, c'est que j'ai un nom qui est pas évident en français, qui est pas très courant, qui vient probablement d'ailleurs, mais qui est en France depuis très longtemps, Treps, et je me suis retrouvée, j'habitais dans l'est de la France, dans une région industrielle, où il y a beaucoup de gens qui avaient immigré, notamment des Polonais, des Italiens, des Tchèques, des Slovaques. Et dans ma classe, le nom Treps passait à peu près inaperçu au milieu des noms étrangers qui me fascinaient déjà. Et aussi, j'habitais donc près de la frontière belge et luxembourgeoise. Et quand il nous arrivait, mes parents et ma famille, d'aller à l'étranger, j'étais très surprise de voir que en Belgique, bon, on parle français, enfin dans la partie qui est limitrophe de l'Est de la France, mais que c'était pas tout à fait le même français. Il y a des mots qui étaient différents. Par exemple, un petit sandwich court, ça s'appelait un pistolet. Justement, voilà.
Ah bon?
Un mot qui a deux sens par analogie de forme. Voilà. C'est court,
Uhum.
prend dans la main, comme ça. Et puis, il y avait un accent. Et c'était très curieux pour moi de me dire qu'ici. Alors, la frontière, si je vous parle de la frontière, entre la Belgique et la France, à cet endroit, c'est parfaitement plat. Il y a vaguement un petit ruisseau. Une barrière, il y avait une barrière rouge et blanche et des douaniers qui n'avaient pas le même uniforme, mais pas de montagne, pas de fleuve, pas d'océan, encore moins. C'est-à-dire que c'est pas une vraie frontière et pourtant, pour le langage, c'en était une. Et ensuite, quand on s'aventurait jusqu'à Bruxelles, alors là, il se passait quelque chose à mes yeux de complètement de sidérant, c'est-à-dire que les panneaux routiers étaient sous-titrés. Il y avait ben, la langue française. Et puis en dessous, le flamand, hein, en voisinage avec la Belgique néerlandophone. Le flamand, c'est-à-dire une langue que j'aime beaucoup, qui m'a toujours tentée, mais une langue parfaitement dévergondée, c'est-à-dire à mes yeux une sorte de langue folle, avec des doubles voyelles, des suites de consonnes imprononçables. Et je me dis, là, il y avait encore moins de frontières. Simplement, on entre dans une ville et tout à coup, voilà deux langues qui ont l'air d'être ressemblées. Le mariage du flamand et du français ressemble, comme il y a une expression française qui le dit, au mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire d'un poisson et d'un lapin. Ça n'a rien à voir. Et j'ai appris plus tard que les gens, en fait, les Belges francophones et les Belge flamandophone en venait aux mains pour des questions qui me semblaient être des questions linguistiques. Bon, en grandissant, j'ai
Ouais.
compris que c'était des questions politiques.
Politique également,
Oui,
ouais.
voilà, j'ai compris plus tard. Mais et tout ça, ça m'a donné une ouverture aux mots étrangers et à l'étrangeté aussi de la langue. Et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été conduite aussi par peut-être pas par hasard complètement, à travailler avec des anthropologues. Et ma façon d'aborder le langage à ce moment-là, elle a été, elle s'en est trouvée différente. Et ma façon de raconter mes découvertes, pour les mots étrangers notamment, qui sont dans la langue française, elle s'est enrichie au contact, des anthropologues.
Oui, très belle petite histoire. Merci de les partager avec nous. J'avais envie de partager rapidement aussi la mienne, comment l'amour des langues m'est venu également. C'est un petit peu aussi sur mon site internet. Mais moi, c'était les paquets de gâteaux. Et en fait, et même les emballages maintenant de n'importe quoi. Je vois par exemple la lessive. Ou je me souviens quand j'étais petite à la table du petit déjeuner. Donc j'avais mes paquets de biscuits au chocolat devant. Et donc la liste des ingrédients est toujours en de multiples langues. Et notamment sur les paquets de Pépito, je me souviens, il y avait l'arabe, il y avait le russe. Et j'aimais beaucoup les lire et puis, bon, le mot chocolat ou cacao, j'étais assez fière parce que, bon, j'arrivais à le reconnaître dans différentes langues, même si c'était pas très difficile, que c'était assez similaire. Mais je me disais toujours, oh, un jour, j'arriverai à lire, je pourrais lire en fait toutes les différentes langues du paquet de gâteaux. Et c'est vrai que, du coup, moi, ça m'avait particulièrement intéressé de, alors, effectivement, de chercher des similitudes entre les langues pour les déchiffrer à la façon d'un code. Même encore maintenant, je dis toujours à mes étudiants que la langue, c'est apprendre une langue, c'est un petit peu faire comme un jeu d'investigation, un jeu de détective. Mais j'étais aussi intéressée par l'apprentissage des langues qui avaient un alphabet complètement différent pour aller de l'autre côté du mystère. Donc j'ai par la suite appris le russe et le chinois. Donc c'est une histoire un petit peu différente, mais une curiosité qui est venue très, très jeune, en fait,
ça
également.
Énormément, parce que je faisais exactement la même chose.
C'est vrai?
C'était les petites cornflakes. Et
Ah oui.
J'ai adapté les mots voyageurs aux enfants, ça s'appelle les mots oiseaux. Et quand je fais des ateliers pour les enfants, en France ou à l'étranger, je leur raconte cette histoire-là. C'est pour ça que ça me touche. Et
Ah ouais.
on devrait faire un club, on est peut-être très nombreux à avoir fait ça dans la vie. C'est vrai que. Et mais alors,
Ouais.
on peut. Ça réserve des surprises. Par exemple, le mot sucre. Alors, je regrette de dire qu'il y a du sucre dans les cornflakes. Et pas
Beaucoup,
dans
oui.
d'autres langues, alors sugar, etc.
Ouais.
Zucchero, azúcar. Quand on le voit écrit, on se dit que ben voilà, il vient du latin. Pas du tout. Mon interprétation était complètement fausse. Il vient de l'arabe.
Ah bon?
Et en retraçant l'histoire du mot, on retrace l'histoire de la denrée. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce qu'il y a de très concret derrière. Et qu'est-ce qu'on voit en voyant le trajet du sucre? On voit qu'à l'origine, j'explique aussi aux enfants que l'étymologie, donc l'origine des mots, c'est comme les gens qui recherchent leurs ancêtres, vous savez, l'arbre généalogique.
La
Il y en a
généalogie,
un
oui.
tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hein? Et puis, alors ben, là, tout en haut, il y a un mot indien. Pourquoi? Parce que la canne à sucre poussait en Inde. Et ensuite,
Eh oui.
ensuite c'est en arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes étaient maîtres de la circulation par bateau dans la Méditerranée. Et ils sont allés en Inde chercher la canne à sucre. Et ensuite, on a le mot italien. Et chaque fois, chacun l'adapte à ses gosiers. Ça aussi, c'est très intéressant. Le défi pour pouvoir le faire sien, l'apprivoiser, non seulement l'emprunter, mais l'adopter. Alors, le mot italien, parce que
Zucchero. Zucchero.
Zucchero, vous le prononcez mieux que moi, il est les Vénitiens, Venise était un port important. Et à partir de Venise, il y a deux voies. Le mot repart. Le mot italien donne le français, l'allemand, le néerlandais, l'anglais. Et par l'autre voie, alors je fais désigner ça aux enfants, tout en bas, je mets le mot espagnol, azúcar, et le mot portugais, qui s'écrit hein,
Quel est le mot portugais?
azúcar. Et il y a azúcar et azúcar. Hein, il y a un Z et un C dans l'un dans l'autre. Et je leur dis, qu'est-ce qui se passe là? Ben, il y a un A devant, ils finissent par me le découvrir. Les autres deux mots se ressemblent, il n'y a pas de voyelle devant la consonne initiale. Alors pourquoi? Parce que ce sont les mêmes Arabes qui se sont implantés en Espagne, ils sont restés des siècles, ils ont laissé du vocabulaire, des mots, et les Espagnols ont pris l'habitude de prendre le mot arabe avec l'article, al ou el. C'est pour ça que le mot sucre, qui est soukar en arabe, c'est ça? Non, vous n'avez pas appris l'arabe, hein?
Non, j'ai pas appris l'arabe.
C'est soukar. Et il est précédé d'un A dans sa version espagnole.
Donc on retrouve ces deux branches et comme vous l'avez vraiment très très bien illustré avec la canne à sucre et puis donc le voyage donc pour apporter le sucre plutôt au Moyen-Orient ou en Europe, c'est vrai que quand on s'intéresse et je trouve que c'est une partie fascinante de l'étude des mots donc à l'étymologie etc. on a toute l'histoire aussi qui est
Bien
derrière
sûr. Géographique.
et oui,
Je me
la
suis
géographie.
coupée d'une fois. Pourquoi est-ce qu'en histoire et en géographie, j'écoutais pas vraiment, m'a pas trop pénalisée, j'apprenais les dates parce que je savais qu'il fallait apprendre les dates et que sinon je m'en sortirais pas. Et après, j'ai réinvesti tous ces champs-là en écrivant mes livres, en fait. Parce que c'est capital et puis c'est passionnant. Alors, un jour, à un festival de géographie où je parlais des mots voyageurs, justement, j'ai dit ça à un professeur de géographie avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, oh, bah, c'est parce que vous avez eu sûrement des mauvais professeurs. Mais c'est vrai que la manière d'enseigner l'histoire et la géographie est peut-être quelquefois déconnectée, comme. la manière d'enseigner le français aussi, de cette partie-là, quoi, qui est très... Il faudrait que ce soit interdisciplinaire, l'apprentissage d'une langue, je pense.
Ah, je suis totalement d'accord avec vous. J'allais aussi dire que j'ai pas, enfin, j'avais des très bonnes notes à l'école et j'étais pourtant pas intéressée par l'histoire. En fait, ça m'ennuyait. Alors que aujourd'hui, je trouve ça mais vraiment
Non.
passionnant. Absolument, ouais. Et alors, je sais pas si vous vous êtes intéressée à la langue chinoise, mais quand on s'intéresse au caractère chinois, on a toute la culture qui est derrière. Ou même au niveau de termes modernes. Alors, je pense, peut-être parce qu'on est en plein emménagement maintenant, mais je pense au mot IKEA. IKEA s'est implanté en Chine également. Et donc, si je dis pas de bêtises, IKEA, c'est Itia. Et donc, c'est une approximation donc phonétique. Vous en parliez, hein, que chacun adapte la langue à son gosier. Mais en plus de ça, ils essayent toujours de trouver un sens qui peut coller au concept. Et Ikea, c'est la famille unie, la famille heureuse.
Ah, formidable.
Voilà, il y a énormément de choses comme ça, ce qui m'a donné vraiment envie d'apprendre les caractères chinois.
J'aimerais bien apprendre toutes les langues, dont celle-là. J'ai une de mes filles qui parle chinois.
Ah ouais.
Qui m'a un peu... Mais c'est vrai que j'ai fait une expérience... Quand je suis... Pour parler de mes livres, m'ont fait voyager, moi, vraiment. Je ne suis pas une voyageuse de sang. Et maintenant, je continue, mais mes livres m'ont fait voyager. Et je me suis retrouvée un jour à Taipei, il y a 3-4 ans, sur le salon du livre, où la France était à l'honneur. Et alors, j'ai vu quelque chose d'incroyable qui ressemble tout à fait à ce que vous me racontez. Une chaîne de magasins qui vend des meubles pour les enfants, pour meubler les chambres d'enfants. Alors, il y a d'abord un logo. Et le logo, c'est un éléphant. Alors, c'est un mot étranger pour les Chinois, mais les Chinois le prononcent olifant. Pourquoi ils le prononcent olifant? Parce qu'en chinois, ça veut dire quelque chose, ça veut dire pièce, chambre, pièce, beau.
Ah, ok, yeah.
Donc, il y a trois niveaux, parce qu'il y a l'image, la prononciation de ce qui est sur l'image dans une langue étrangère, enfin, la prononciation d'un mot étranger, et ensuite, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'interprétation de ces sonorités-là, ça donnerait une sorte de mot-valise dans la langue chinoise.
Ce qui voilà, est subtil. Avec un sens joyeux, enfin, qui exprime un peu la notion de... Donc ce serait peut-être Meili Fan, peut-être. J'essaie de peut-être. Ressembler mon chinois.
Oui, peut-être Meili Fan. Peut-être.
Super. Alors justement, donc on va donc s'intéresser au. And that's the end of the first part. Stay tuned for the second part of my conversation with Marie Treps, where we'll go more in depth about her most recent publication, which is called Oh là là, c'est français. I'm sure you love the title and you will also love the examples of words, the French words that I used overseas. Maybe Marie will mention some example of words that you do use. So if you want to like just dig a bit more deeper into some expressions, origin of the words copain, travail versus travel, I had also explained the origin of the word vacances, pointed the difference between the French déception and the English deception. So if you're interested in all this area, just now go to my other podcast, French Your Way Podcast, and yes, enjoy it. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices.